fini par écrire cette brochure parce que c'est en faisant un peu toutes mes recherches que je me suis aperçue que j'avais vraiment énormément de trucs à raconter sur le système nerveux, le sommeil et le stress, et que certainement qu'en 1h30 je vais pas avoir le temps de parler de tout, et du coup ça fait qu'aussi il y a des infos donc je vais pas avoir le temps d'aborder qui seront dans la brochure. Et j'avais proposé de faire cet atelier suite à la permanence soins sur le burn-out, parce que je me suis dit que peut-être c'était important de un peu essayer d'expliquer de manière assez simple comment fonctionne le système nerveux pour comprendre aussi comment on en arrive à être en burn-out ou même l'étape d'avant, le surmenage, le stress chronique. Et du coup, d'expliquer à la fois le stress, ça veut dire quoi ? C'est quoi ? Que quand le stress arrive, qu'est-ce qui se passe physiologiquement dans le corps ? Et aussi de parler du sommeil qui a un lien aussi avec le stress et principalement aussi avec le système nerveux. Et pourquoi c'est important de bien dormir. Tout à l'heure, on parlait de ça, Mona, tu disais en fait comprendre l'anatomie. Moi, c'est un truc qui m'a passionné. J'ai fait une formation de naturopathe et quand j'ai commencé à apprendre et à comprendre comment le corps fonctionnait, je me suis dit, ouais, mais en fait, ça, tout le monde devrait le savoir. Au moins les bases pour comprendre un peu c'est quoi les signaux d'alerte du corps qui nous disent « Ah, attention, là, en fait, ça déconne, il faut intervenir. » Et voilà, j'ai essayé de faire une explication du fonctionnement du système nerveux un peu simplifiée. Je ne vais pas parler de tout. Je vais quand même prononcer des termes un peu barbares, scientifiques, parce que je ne sais pas comment les appeler autrement, et parce qu'il y a des éléments de langage qui sont importants à connaître. N'hésitez pas à m'interrompre si vous n'avez pas compris un truc ou que vous avez des questions. Je vais pas mal lire mes petites notes parce qu'il y a beaucoup de détails. Aussi, je vais expliquer, c'est en fait il y a l'anatomie. En gros, c'est il y a l'anatomie et la physiologie. L'anatomie, c'est par exemple les organes, le foie, le cœur, le système digestif, etc. Et la physiologie, c'est comment ça fonctionne. Et du coup, le système nerveux, il est très important dans le corps, au même titre que le système hormonal, qu'on appelle aussi le système endocrinien, parce que à eux deux, ils permettent en permanence, en fait, ils sont actifs en permanence pour qu'il y ait un espèce d'état d'équilibre qui se fasse dans l'organisme en permanence, parce qu'il se passe plein de trucs et dans le corps et dans l'environnement extérieur qui déstabilisent un peu les processus chimiques ou autres qui se passent dans le corps, et les deux, ils interviennent pour tout le temps faire en sorte qu'il y ait une espèce d'état d'équilibre. Et cet état d'équilibre, on appelle ça l'homéostasie. Et en gros, ils permettent d'adapter les réactions du corps à tous les changements qui se passent, soit à l'intérieur du corps ou ce qui se passe à l'extérieur. Et la différence entre les deux, notamment, c'est en termes de rapidité de réponse. En gros, le système nerveux, c'est des réponses très rapides. J'ai écrit dans la brochure, c'est un peu comme envoyer un mail, c'est très rapide, on appuie sur envoyer et hop, la réponse a lieu. Et le système hormonal, c'est beaucoup, beaucoup plus lent et c'est un peu comme envoyer un message par la poste, surtout en ce moment. Ça prend plus de temps. Et en gros, le système nerveux, il a trois fonctions. Il va recevoir des informations que nos organes des sens vont leur donner, du coup la peau, les yeux, les oreilles, etc. Et le cerveau et la moelle épinière, qui sont un peu les chefs du système nerveux, ils vont traiter et interpréter ces informations et ensuite faire en sorte qu'il y ait une réponse à ces informations et qui va passer par ce qu'on appelle son système moteur. Je vais le décrire un peu plus longuement avec un peu des petits schémas avec la voix. Le système, ce qu'on appelle le système nerveux central. Ça, c'est le cerveau, c'est plusieurs parties du cerveau, c'est pas le cerveau en entier, mais c'est plusieurs parties que je vais pas décrire parce que c'est trop complexe, on s'en fout. Et la moelle épinière. La moelle épinière, en fait, c'est un long tube qui se trouve, qui passe à travers toutes nos vertèbres. Les vertèbres, elles ont un espèce de trou au milieu. Et en fait, c'est un gros, gros tube qui fait, je sais plus combien de. Qui fait 45 cm de long et 1 cm de diamètre. Et qui part du coup du haut des vertèbres jusqu'en bas. Et en gros, eux, c'est un peu les chefs du système nerveux. Et ensuite, ce qu'on appelle le système nerveux périphérique. Donc, j'écris vite. Ça, c'est tous les nerfs qui partent au niveau du crâne et à travers la colonne vertébrale. Sur la première page de la brochure, là vous n'allez rien voir, mais en gros c'est tous les petits canaux qu'on voit qui partent de part et d'autre dans l'ensemble du corps, quoi. Du coup, en gros, la moelle épinière, c'est un peu comme l'image d'un. Là, on va dire, c'est le cerveau. Et puis là, la moelle épinière, c'est comme un gros câble électrique d'où partent plein de petits câbles, quoi.
Une grosse racine de charbon avec plein de petits palissades.
Comment ?
Une grosse racine.
Exactement. Et dans ce système nerveux périphérique, du coup, tous ces nerfs, il y a deux voies différentes. Il y a et la voie sensitive, c'est-à-dire. C'est tous les nerfs qui sont reliés aux organes des sens. Du coup, c'est tout ce qui perce. C'est tout. Du coup, la peau, ça va percevoir la chaleur, le toucher, la douleur, etc. Et tout ce qui est relié aux oreilles, aux yeux, au goût et à l'odorat. Et ça, ça va donner une information au cerveau et à la moelle épinière qui vont ensuite répondre. Du coup, ça c'est la voie sensitive, c'est tous les organes des sens, ça apporte une information au cerveau et à la moelle épinière. Et ensuite, la réponse, elle va passer par ce qu'on appelle la voie motrice, c'est-à-dire tous les nerfs moteurs qui vont être accrochés au squelette, aux muscles du mouvement. Du mouvement, mais aussi par exemple au sphincter de l'urètre pour uriner ou au sphincter de l'anus pour faire caca. Ça va permettre de pouvoir marcher, s'asseoir, lever le bras, tout ça. Quoi. Ça, c'est une réponse motrice. Mais en fait, dans la réponse motrice, il y a aussi. Tout ce qui n'est pas conscient, ça veut dire la réponse motrice du cœur qui va se mettre à s'accélérer parce qu'à ce moment-là, il y a besoin de plus de sang, plus d'oxygène. Ça va être une réponse du foie qui va se mettre à faire quelque chose en particulier. Mais tout ça, c'est des trucs qui ne sont pas conscients. Et du coup, en gros, dans la voie motrice, il y a ce qu'on appelle le système nerveux. Bon, c'est un peu avec des mots un peu compliqués, mais ça va peut-être vous permettre, si vous relisez d'autres trucs, d'arriver à comprendre de quoi on parle, quoi. Mais ce qu'on appelle somatique, ça veut dire que c'est tout ce qui est volontaire et conscient. Donc ce que j'ai dit avant, marcher, tirer la langue, faire caca, tout ça. Et le système nerveux, on dit autonome. Et là, c'est plutôt tout ce qui est inconscient, où nous-mêmes, on ne peut pas dire, ah tiens... fois va trier plus vite les déchets. Du coup, c'est tout poumon, cœur, rate, foie, pancréas, le sang, aussi toutes les glandes hormonales. Et dans ce système autonome qui est du coup tout ce qui est inconscient, là, il y a aussi deux types de systèmes qui sont du coup les systèmes dont je vais beaucoup parler là maintenant qui vont nous intéresser. C'est ce qu'on appelle, je ne sais pas pourquoi il l'appelle comme ça d'ailleurs, système nerveux sympathique. Ou des fois c'est appelé orthosympathique. Et l'autre, c'est le système nerveux parasympathique. Et je vais vous les décrire un peu plus tard, plus longuement, mais en gros, la différence, c'est que le système nerveux sympathique, c'est le, ce qu'on appelle le système nerveux de l'accélération, de l'action, à la différence, au contraire, du parasympathique, qui est plutôt celui de le fait de diminuer ou de ralentir, et c'est le système nerveux de repos. Je ne vais pas tout lire, tout ce qu'il y a dans la brochure, c'est encore trop de détails, je ne suis pas sûre d'avoir tout le temps de tout dire, du coup je ne vais pas tout raconter. Et dans le système nerveux, vous avez déjà entendu parler des neurones, quand on dira j'ai perdu plein de neurones, tout ça. Je vous ai fait un petit schéma dans la brochure du neurone. Là, il y a une espèce de corps avec des petites racines. Il y a des racines principales puis des racines secondaires. Mais ce qui est important là-dedans, c'est que les neurones, entre eux, ils produisent un influx qui est électrique et qui se transforme ensuite en influx chimique. Et ces trucs chimiques, on appelle ça les neuromédiateurs, qui sont en fait... les neuromédiateurs qui en fait agissent sur l'humeur et les émotions. Et parfois ces neuromédiateurs, ils agissent aussi comme des hormones, et ça je ne saurais pas vous l'expliquer, mais des fois c'est des neuromédiateurs, des fois c'est des hormones. Mais leur action, elle est toujours pareille, quoi. Et du coup, je vais vous raconter ce que c'est les différents neurotransmetteurs, et notamment parce que ça explique plein de choses sur des trucs émotionnels. Et ils ont des noms que vous avez déjà entendu parler parfois et d'autres noms, mais vous avez. En gros, il y en a 1, 2, 3. Les quatre principales. Il y a la dopamine, la noradrénaline, la sérotonine et la mélatonine. Chaque neurotransmetteur a un rôle particulier. La dopamine, on dit que c'est le neurotransmetteur qu'on appelle le démarreur. La noradrénaline, c'est plutôt l'accélérateur, la sérotonine, c'est plutôt le frein, et la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. La dopamine, en gros, c'est un neurotransmetteur qui agit comme un starter, qui est sécrété par le cerveau plutôt le matin, dans la matinée, et qui va être le neuromédiateur de l'élan et de l'envie de faire des trucs. C'est aussi ce qu'on appelle l'hormone de la récompense et du plaisir. C'est ça qui est aussi sécrété quand on mange du sucre, ou qu'on prend des drogues, ou qu'on fait des trucs qui est beaucoup lié à l'addiction. Et elle est synthétisée, ça veut dire qu'elle est fabriquée à partir d'éléments que s'il n'y a pas ces éléments-là, elle ne va pas être sécrétée. Et notamment, elle est synthétisée par un acide aminé, ça fait partie des protéines. Les protéines, c'est comme un collier de perles, où chaque perle, c'est un acide aminé différent. Et cet acide aminé s'appelle la tyrosine. Elle est synthétisée par... il faut qu'il y ait cet acide aminé, mais aussi tout un tas de minéraux ou de vitamines qui sont indispensables pour qu'il y ait cette fabrication. En gros, chaque neurotransmetteur, ils ne sont pas sécrétés direct comme ça, ils ont besoin du coup de plusieurs éléments. Ils ont besoin d'un élément qui va ensuite donner, créer un autre élément, qui va encore créer un autre élément, qui va finir par donner la dopamine. Ça a l'air un peu complexe, mais ça permet de comprendre, je vais vous dire des noms chelous. Moi, la première fois qu'on m'a dit ça, j'ai rien compris. J'ai mis beaucoup de temps à arriver à capter pourquoi c'était important de savoir ça, mais notamment parce qu'il y a certains médicaments ou certaines plantes qui vont pas forcément donner, par exemple, de la dopamine directe, mais qui vont donner ce qu'on appelle le précurseur, c'est-à-dire ce qui arrive juste avant, quoi, qui va ensuite permettre la fabrication de la dopamine. Et du coup, je vais vous écrire ici. Du coup, pour la dopamine, il faut de la tyrosine, du coup, de la protéine, qui va ensuite donner, bon, ça paraît très complexe, hein, de la L-dopa, je ne sais pas du tout pourquoi, si, L-dopa, dopamine, qui va ensuite donner de la dopamine. Et en gros, c'est le neurotransmetteur qui permet d'être motivé, d'arriver à avoir des imaginations, des projections, etc. Et quand le taux est bas, qui peut venir de plusieurs causes, notamment le stress chronique, parce que je vais vous l'expliquer après, mais le être stressé, ça fait qu'on sécrète du cortisol qui va faire que ça va faire baisser la dopamine. Quand on a une alimentation aussi très sucrée ou qu'on a un diabète ou quelque chose, en tout cas un problème avec le taux de sucre dans le sang, ça fait aussi baisser la dopamine. Et aussi le fait de mal digérer les protéines, notamment parce que du coup on n'arrive pas à assimiler la tyrosine. Et de mal digérer des protéines, ça peut venir de plein de raisons. Ça peut venir, ben, soit d'en manger par exemple juste avant de se coucher et du coup d'avoir le ventre plein et de mal digérer. Ça peut être d'en manger trop parce que les enzymes qui sont dans l'estomac qui digèrent les protéines, elles sont limitées. Du coup, si on en mange trop, ben, les protéines ne vont pas être toutes digérées. Et aussi avec certains médicaments comme ce qu'on appelle les antiacides, le Mopral et tout ça, qui normalement ne sont pas censés être pris à long terme, ça fait que du coup il n'y a pas assez d'acidité dans l'estomac pour digérer ces protéines. Et d'avoir une baisse de dopamine, ça fait que du coup, au contraire, le matin ça va être le moment où on n'arrive pas à sortir de son lit et à être motivé par ce qu'on a à faire dans la journée. Ça fait qu'on va procrastiner, qu'on va plus s'isoler, qu'on est plus motivé, qu'on a beaucoup moins de désir, etc. Voilà. Et la tyrosine, du coup, ça vient des protéines. Donc, ça veut dire que dans toutes les protéines, on en trouve, même les protéines végétales. On en trouve aussi dans les bananes, dans les amandes. Je vous ai fait un peu la liste, le sésame, les graines de courge, le riz, les légumes feuilles. Ça veut dire que, en tout cas, quand on se sent avoir beaucoup moins d'entrain le matin, tout ça, ça peut venir d'autres trucs. La dépression, elle peut faire ça aussi. Mais en fait, s'il n'y a pas aussi un fort sentiment de tristesse ou tout ce qui est aussi lié à la dépression, il faut aussi voir, essayer de chercher de ce côté-là. Et ensuite, je parle d'une plante qui s'appelle le moukouna, qui n'est pas du tout une plante qu'on trouve chez nous, du coup, qui se trouve plutôt en herboristerie, en pharmacie, etc. C'est une plante qui du coup n'apporte pas de la dopamine, mais qui apporte de la L-dopa, qui est le précurseur de la dopamine. Dans la brochure, à la fin, là, je répertorie toutes les plantes liées au sommeil, au stress et tout ça, et avec un peu toutes les contre-indications, et au final, il a beaucoup de contre-indications, notamment pas en association avec des antidépresseurs. Et c'est à prendre le matin, parce que justement, la dopamine est synthétisée le matin. Ça va, c'est pas trop compliqué.
Okay. Moi j'ai une question. Alors il faut éviter de manger les protéines avant le soir. Il faut éviter. Tout à l'heure ici il faut éviter.
Et ben en fait dans tous les cas les protéines qu'elles soient animales ou végétales, faut toujours éviter de les manger le soir parce que c'est très long à digérer.
D'accord.
Et du coup, quand on en mange tard le soir, en plus assez proche du coucher, on peut très très mal les digérer. Et ensuite, j'expliquerai pourquoi il vaut mieux manger des protéines plus tôt le matin. Justement, manger plus tôt, pour ça, pour la dopamine en fait.
Oui,
de manger plus tôt des protéines le matin au petit-déj. Ouais, c'est ça.
C'est ça.
Merci. Et du coup, la thyroïdine donne la dopa qui va donner la dopamine qui elle-même va donner la noradrénaline. La noradrénaline, qui est la neuromédiateur de l'accélération, mais qui aussi intervient avec l'adrénaline dans tout le processus du stress. Je vous l'expliquerai après. Du coup, elle est... Ça, c'est la noradrénaline est précurseur de la dopamine, et la noradrénaline donne aussi l'adrénaline. La noradrénaline, elle est sécrétée à la fois par le cerveau et aussi par les surrénales. C'est en fait les reins qui sont ici et pas ici. On a deux reins avec deux espèces de glandes, vraiment comme un chapeau sur les reins. Et ça, c'est les surrénales. C'est du coup des glandes hormonales qui vont sécréter la noradrénaline. Et en théorie, plutôt la noradrénaline, elle est sécrétée après la dopamine, du coup plutôt entre midi et 16h, quoi, en gros. Et ça, c'est le neuromédiateur de l'accélération et de la poursuite de l'action. Du coup, ça va être aussi comme la dopamine, un peu la recherche du plaisir, de la récompense et tout ça. Ça apporte de la joie de vivre, ça nous aide à être attentive, d'avoir aussi des trucs de capacité de mémoire. Et d'apprendre, et quand le taux est bas, plutôt ça va inverser toute cette tendance et ça va être plutôt des difficultés à arriver à se faire plaisir, de ne pas être très bien, d'avoir du mal à apprendre, etc. Et quand on a un taux élevé, notamment à cause du stress, là va y avoir un fort besoin de reconnaissance, on va être un peu anxieux, etc. Et voilà.
Du coup, si on a des problèmes de dopamine, on va aussi avoir des problèmes de
ouais, etc. C'est ça, c'est... tout est lié.
Et les deux sont très favorisés par une carence en fer, du coup.
C'est ça, c'est qu'aussi elle est fabriquée tout ça, mais à chaque fois il faut du fer, des vitamines, d'autres minéraux. Du coup, si on en manque de fer, ça va aussi impacter la dopamine, la noradrénaline. Mm-hmm. Si on manque de vitamine C, notamment parce qu'on fume des clopes, parce que le tabac fait qu'on consomme encore plus de vitamine C que les personnes qui ne fument pas. Voilà, je suis très mal placée pour dire ça. En fait, tout est relié dans le corps. Enfin, je veux dire, même tous les systèmes, tout est en lien. S'il y a une faiblesse quelque part, ça va impacter le reste. Enfin, c'est... Ouais, tout est relié. Ensuite, la sérotonine, elle, c'est un peu différent. Elle n'est pas dans la même continuité dopamine, noradrénaline, etc. Elle est fabriquée à partir d'un autre acide aminé qui s'appelle le tryptophane. Ah oui, pour finir, c'est aussi possible, je sais parce que des personnes m'ont dit qu'on leur avait conseillé ça, qu'il est aussi possible de, en manque de dopamine, de prendre aussi de la tyrosine directement, qui est de la tyrosine synthétisée, je ne sais pas de quelle manière, mais c'est aussi possible de trouver ça. Et qu'en fait, des fois on va prendre ça, mais en fait on n'en a pas ça. Et du coup, d'essayer d'aller jusqu'au départ, quoi. Par l'alimentation ou par, je sais pas, ce qu'on appelle le complément alimentaire. Donc voilà. Et donc, la sérotonine, elle est fabriquée à partir d'un autre acide aminé qui s'appelle le tryptophane, qui, lui, est fabriqué ensuite... Enfin, les noms qu'ils ont choisis, c'est vraiment indique 5-HTP. Voilà, ça veut rien dire.
Puis ensuite, tryptophane,
ça devient de la sérotonine. Mais ça, c'est important parce qu'il y a des plantes qui agissent là-dessus et pas forcément directement sur la sérotonine, mais sur les 5-HTP. Et pareil, il faut aussi du fer, différentes vitamines, etc. Et la sérotonine, elle est sécrétée à la fois par le cerveau, mais aussi le système nerveux qu'il y a dans le système digestif. En fait, on s'est aperçu que 95% de la sérotonine est sécrétée par les neurones qui sont dans le ventre. En fait, on dit que le système digestif, c'est un peu notre deuxième cerveau. Parce que notamment, quand le fœtus, l'embryon, tout ça se crée, le moment où le système nerveux lié au cerveau et tout ça se crée en même temps le système digestif. Et en fait, c'est vraiment les mêmes neurones qu'on trouve ici et les mêmes neurones qu'on trouve dans le système digestif. Il y a la sérotonine, mais il y a aussi d'autres neurotransmetteurs qui font un peu des va-et-vient. Et du coup, d'avoir la flore intestinale, c'est les bactéries qu'on trouve dans nos intestins, qui servent à un milliard de trucs, dont c'est aussi une grosse part du système immunitaire. Quand on a des problèmes de flore, parce que X raisons, le stress fait ça, les antibiotiques, toutes sortes de choses font que tout ça s'est bouleversé, ça fait que ça peut impacter, en fait il y a un fort lien, ça peut impacter aussi notre état moral. Et il y a eu des études scientifiques qui ont été faites et qui ont montré que la présence ou l'absence de certaines bactéries pouvait provoquer par exemple des dépressions. Mais inversement, ça veut dire un état émotionnel compliqué peut altérer la flore intestinale et inversement. Et donc la sérotonine, c'est un peu le contraire de la dopamine. La dopamine, c'est le neurotransmetteur de l'élan, alors que la sérotonine, ça va être plutôt le frein. Ça veut dire, c'est un peu elle va agir plutôt pour essayer de se préserver. C'est-à-dire la dopamine, vraiment grosse dose de dopamine, on peut prendre plein de risques, alors que la sérotonine, ça va être plutôt plus réfléchi. Ça veut dire qu'on va essayer d'éviter la souffrance, on va essayer d'éviter la punition, on va contrôler un peu tout ce qui est pulsion, addiction alimentaire ou autre. Et du coup avoir un comportement beaucoup plus prudent. Et si le taux de sérotonine est bas, ça veut dire que par exemple il va manquer du tryptophane ou que ici ça va pas bien se faire avec le 5-HTP, etc., ou qu'on a des problèmes digestifs, au contraire ça va, on va avoir plein de symptômes que vous connaissez, notamment d'avoir de l'agressivité, de la violence, de la colère, d'être irritable, d'être impatient, impatiente, d'être moins tolérante à la frustration. Ça va aussi entraîner des compulsions alimentaires plutôt sucrées, parce que le sucre, ça favorise la synthèse de la sérotonine et en même temps, ça fout le bordel dans le système digestif. Voilà. Et ça provoque des troubles du sommeil parce que la sérotonine, c'est le précurseur de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Du coup, si on n'a pas assez de sérotonine, la mélatonine ne va pas être sécrétée. Ou s'il nous manque du tryptophane ou du 5-HTP, ça va bouleverser le sommeil. Et pour la sérotonine, dans l'alimentation, ça va être les mêmes que pour la dopamine, parce qu'il faut l'acide aminé du coup des protéines qui est la base, là, le tryptophane. Et aussi, on en trouve dans la levure de bière et dans le chocolat noir. Et il existe des plantes qui peuvent augmenter la concentration de la sérotonine dans le cerveau, et notamment le millepertuis, qui va un peu arrêter le fait que la sérotonine, on dit la recapture de la sérotonine, je ne saurais pas vous expliquer, mais en gros, ça fait qu'elle ne va pas être détruite, elle va être conservée plus longtemps. La rhodiole, qui est une plante, je crois pas qu'on trouve en France, fait aussi un peu la même chose. Et le griffonia, qui est aussi une plante qu'on trouve pas chez nous, qui elle va apporter du 5-HTP qui va permettre de synthétiser la sérotonine. Et après, les détails de ces plantes, ça, c'est à la fin de la brochure. Et pour finir avec les neurotransmetteurs, je vais parler du coup de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. C'est une hormone qui est sécrétée, je sais pas par quoi elle est sécrétée d'ailleurs, je sais plus, plutôt en fin d'après-midi, vers 16h. Petit à petit, elle va augmenter jusqu'à atteindre un pic plus ou moins vers 22h, qui fait que souvent on a un petit coup de barre comme ça, que généralement ça veut dire va te coucher chérie, et ce que souvent on fait pas d'ailleurs, on va dire ah vas-y là je vais pas me coucher maintenant, mais en fait ça fait que du coup on va louper un peu le train quoi, qu'il vaut mieux prendre le train en marche au moment où la sécrétion de mélatonine est la plus forte, parce que c'est ça qui va faire qu'on va s'endormir très vite et que notre sommeil va être beaucoup plus réparateur. Et elle est responsable en fait de notre horloge interne, qui n'est pas l'horloge biologique dont on parle quand on dit ah mon horloge biologique tourne, je ne vais plus avoir d'enfant parce que j'ai... C'est plutôt l'horloge justement interne de dire bon la mélatonine elle permet de pouvoir s'endormir. Elle régule aussi le système hormonal. C'est elle qui va un peu donner l'heure aussi aux glandes hormonales de sécréter telle ou telle hormone importante dans la journée ou dans la journée. On en trouve de la mélatonine dans les noix et dans les noisettes. Il faut savoir que les médicaments en cas de hypertension artérielle, ils empêchent la sécrétion de la mélatonine, du coup ça peut provoquer des troubles du sommeil. Et on trouve aussi la mélatonine en complément alimentaire qu'il est possible de prendre. Je l'ai indiqué dans la brochure le nombre de milligrammes par jour qu'il faut prendre par prise. Et en tout cas, ça permet de réguler, de resynchroniser un peu le rythme de la journée et du coup du sommeil. C'est 1 à 2 mg 30 minutes avant de coucher.
Et pour vous ?
Ouais.
En vrai, je t'avais piqué tes cours et tout, mais du coup, ça a son importance de genre, elle est sécrétée par la glande pinéale et c'est quand il y a plus de lumière. Et du coup, c'est un peu un truc où si t'es devant un écran où il y a plein de lumière, tu vas pas la sécréter.
Ouais, en fait, oui, c'est ça, j'en parle après et j'ai écrit en plus, j'ai oublié. En fait, le cerveau, il a sécrété du coup la mélatonine qui va augmenter petit à petit en fonction de la lumière qu'on perçoit. Et du coup, en théorie, à 22h, il est censé faire nuit, du coup, c'est censé être sécrété à fond pour dire allez, il faut aller se coucher. Sauf que, en effet, tout ce qui est écran, téléphone, ordinateur, regarder des séries le soir, être sur son téléphone et tout ça, ça leurre complètement le cerveau qui se dit « Ah ben en fait, il fait encore jour, j'ai pas besoin de sécréter plein de mélatonine » et ça va faire que, en fait, on va fermer notre ordi et qu'on va être là, les yeux ouverts dans notre lit et qu'on va mettre 1000 ans à s'endormir parce que on a juste induit en erreur le cerveau, quoi. Est-ce que ça va? Alors, je vous ai parlé du coup de la réponse moteur du système des nerfs. Non, pas du tout, si c'est ça. Et que du coup, le système nerveux qui est lié plutôt à tout ce qui est inconscient, c'est le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Moi, quand j'ai appris ça, quand j'ai compris qu'en fait, il y avait deux trucs différents, un truc pour l'action et un truc pour le repos, et que c'était très très important qu'il y a un équilibre entre les deux, qu'il ne fallait pas être que dans un et être actif tout le temps ou que dans l'autre et être tout le temps au repos, qu'il fallait un équilibre. Je me suis dit, ah ouais, là, je déconne complètement dans ma vie, je suis tout le temps à donf et je fais pas en sorte d'être assez reposée. Et du coup, je comprends pourquoi du coup mon corps est en train de déconner. Et en fait, le système nerveux, en gros, la différence entre les deux, c'est comme si le système nerveux, c'était un élastique. Et que quand on le tend à fond, c'est le système nerveux sympathique. Et quand il est complètement détendu, c'est le système nerveux parasympathique. Et quand on tire cet élastique tellement qu'à la fin, il craque, ça, c'est le burn-out. Dont je vais reparler un peu après. Du coup, c'est aussi des réponses du corps qui sont inconscientes, mais qui se passe que quand c'est des moments de repos et où on est tranquille, quoi. En gros, ça gère toutes les fonctions qui permettent à l'organisme de se renouveler. Du coup, ça va agir sur la digestion, la respiration, la circulation du sang, mais aussi la sudation, le fait de transpirer. Ça ralentit aussi tous les organes qui demandent beaucoup d'énergie. Et ce système nerveux du repos, il passe par ce qu'on appelle le nerf vague, qui agit notamment dans les malaises vagales. On appelle ça un malaise vagal parce que c'est quand le nerf vague est trop sollicité. Et ce nerf vague, c'est un gros nerf qui, en gros, relie le système nerveux du cerveau au système nerveux qui est dans les intestins. Et du coup, il part du crâne, il descend le long du cou, le thorax, le diaphragme, et finit dans le système digestif. Et c'est une grosse autoroute où passent les infos. Et voilà, du coup, j'ai déjà parlé du système nerveux digestif, que c'était les mêmes neurones que dans le cerveau. Et ce système nerveux du repos, il va ralentir plein de fonctions. Notamment, il va faire en sorte que le cœur, il va battre moins vite, que la pression sanguine, elle va diminuer, que nos pupilles vont rétrécir, qu'on va avoir une respiration beaucoup plus calme. Et ça va stimuler les organes qui permettent de un peu de sortir les poubelles du corps, et notamment tout ce qui est lié au système digestif, le foie, les intestins, le pancréas, l'estomac, qui permettent de faire sortir le caca, qui est un déchet, et aussi le système de la vessie, qui permet aussi de pouvoir sortir par les urines aussi les poubelles du corps, quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que manger dans une ambiance plutôt tranquille et pas en mode speed, à être entre deux trucs et vite fait bouffer un truc en étant stressé, parce qu'en fait ça permet pas à la digestion de bien se faire, du coup d'assimiler tous les nutriments dont on a besoin pour toutes les réactions chimiques du corps, que ça peut aussi bloquer même complètement et provoquer de la constipation par exemple. Il y a besoin que ça soit, qu'on soit dans un truc de tranquillité pour que le système digestif il se mette en branle. Ça va? Je vais vous parler du stress maintenant, qui est un gros sujet. En gros, on distingue. Je vais garder un petit bout du tableau. On distingue deux types de stress. Il y a ce qu'on appelle le bon stress et le mauvais stress. Le bon stress, en gros, c'est quand on arrive à adapter le niveau de stress par rapport à quelque chose qui se passe. C'est un peu le bon stress, c'est celui qui va nous sauver la vie, qui va nous mettre en mode de survie face à un danger. La joie, ça peut être aussi ce qu'on appelle un bon stress. Il se passe quelque chose, il y a une émotion un peu forte. Et la différence avec le mauvais stress, c'est que ça veut dire que le niveau de stress, il n'est pas adapté à ce qui est en train de se passer, et surtout s'il dure dans le temps, s'il devient chronique. En gros, le système nerveux sympathique, du coup, qui est celui de l'action, c'est lui qui va agir pendant les situations de stress. Il va permettre, en fait, il intervient pour pouvoir donner une réponse à la situation de stress et de nous protéger, en gros, face à un danger quand la vie, elle est menacée. Parce qu'on a l'impression qu'on est menacé, alors qu'en fait, à des moments, on va réagir, on va avoir exactement le même comportement et il va se passer la même chose dans le corps quand on est face à un réel danger de menace de survie et que peut-être on va mourir, à une situation Je vais rater mon train, j'ai trop froid, j'ai peur, ou je suis en conflit avec quelqu'un, quoi. C'est vraiment exactement la même chose qui se passe dans le corps. Et le stress, en gros, il ne dépend pas de l'intensité de l'action, parce que ça peut être très intense, mais on va donner une réponse qui va faire que le stress va redescendre, mais de celle de la tension. De la tension. Et en gros, les deux réponses possibles face à un stress, quel qu'il soit, c'est soit combattre, soit c'est fuir. C'est un peu comme... j'aime beaucoup ces comparaisons. C'est comme quand voilà, on était des hommes et des femmes préhistoriques et que là, d'un coup, un dinosaure arrive. Ben, on a deux choix. Soit on lutte contre ce dinosaure, soit on part en courant. Et ça, c'est des réactions qui sont adaptées. Ça veut dire qu'il y a une réponse, une action, il se passe quelque chose et on essaye d'intervenir, soit en fuyant la cause du stress, soit en essayant de lutter contre, quoi. Et du coup, le corps, il va essayer de mobiliser un maximum d'énergie pour pouvoir réagir, c'est-à-dire soit combattre, soit se barrer en courant. Sauf que souvent, on utilise une troisième réponse qui est l'absence de réponse. Ça veut dire, c'est la tétanie, c'est l'action qui est complètement stoppée et il n'y a pas de réaction. Et c'est là où ça devient un problème, où ça devient un mauvais stress, c'est quand on n'arrive pas à répondre. Parce que du coup, le corps il va se mettre en mode adaptation absolue. Et que si la source de stress elle est toujours là et qu'on n'agit pas face à ça, c'est là que ça devient chronique et que du coup il y a un gros bouleversement physiologique dans le corps. Ça fout un bordel pas possible. Je vais vous expliquer pourquoi. En gros, quand il se passe un truc, là il y a un dinosaure qui arrive devant la grotte. C'est un peu le choc, on est dans un état de surprise. Et en gros, le stress, il passe par trois phases, selon ce qu'on va faire. En gros, je ne sais pas celui-là. Il y a trois phases. Il y a d'abord la phase d'alarme. Ça veut dire, là, le corps, il se met en mode gyrophare, attention, il se passe un truc, il faut vite réagir. Et c'est un moment qui est assez court et qui est très très intense. Donc, là, c'est le stress, le dinosaure, hop. Là, du coup, c'est ce qu'on appelle les hormones du stress, c'est la noradrénaline et l'adrénaline qui sont sécrétées. Parce que d'un coup, le corps il a besoin de plein d'énergie pour réagir. Du coup, le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Là, on a besoin de réagir. Il faut vite, vite, vite que plein d'organes soient beaucoup plus oxygénés, le cerveau et le reste. Du coup, notre cœur il va se mettre à battre plus vite. D'un coup, la pression sanguine va augmenter parce que certains organes, notamment par exemple pour se mettre à courir d'un coup, il faut qu'ils soient plus irrigués. Du coup, le sang, il va par exemple se détourner de la peau. Ça fait que souvent, on devient un peu pâle comme ça là. Pour ensuite se rediriger vers des organes plus importants pour réagir. Notamment le cerveau pour arriver à être plus vigilant et les muscles du squelette pour pouvoir courir. Du coup, le tonus musculaire, il va augmenter aussi. On va commencer à serrer des dents. Tous les muscles du ventre, des bras, des jambes se mettent en tension pour être prêts à partir. Mais ça, on ne s'en rend pas compte. Mais en vrai, quand vous y réfléchirez, la prochaine fois que vous serez face à un dinosaure, vous allez voir comment votre corps il réagit. D'un coup, on va respirer plus vite. Le cœur, il accélère. Mais du coup, les bronches vont se dilater. On a besoin de beaucoup plus d'oxygène. Nos pupilles, elles vont s'agrandir parce que du coup, ça élargit la vision. Les poils vont se dresser. Il va y avoir une stimulation du coup aussi de certaines zones du cerveau pour augmenter la vigilance. d'un coup, le taux de sucre dans le sang, il va se mettre à monter et le taux de gras aussi parce que d'un coup, comme ça, le corps, il a aussi tous les apports énergétiques dont il a besoin pour pouvoir réagir. Ça, le stress, il va aussi bloquer la digestion. Souvent, on peut avoir mal au ventre, mais en fait, il fait en sorte que d'un coup, le système digestif, il n'ait plus besoin d'énergie pour pouvoir digérer, ça va se bloquer. Ce qui peut provoquer de la constipation, mais aussi à des moments, ça peut provoquer d'un coup avoir la diarrhée, un état de stress que d'un coup il faut aller aux toilettes, c'est parce que le corps il se dit là faut que tu évacues parce que c'est pas le moment. Donc c'est quand même pas le moment dans la diarrhée non plus en face de votre dos. Voilà, par contre ça bloque aussi l'envie d'uriner parce que c'est pas le moment. On va se mettre à transpirer aussi d'un coup, par exemple prendre la parole en public pour les gens pour qui c'est un problème, c'est une manifestation de se mettre à suer 3 litres de transpi d'un coup parce qu'en fait ça permet de refroidir le corps. Et voilà. Et la noradrénaline et l'adrénaline, elles sont sécrétées par les surrénales au-dessus des reins, là je vous ai dit. Et là. Plusieurs réactions possibles. Donc le stress arrive, bim bim bim, adrénaline, noradrénaline, on arrive là, et là, la cause du dinosaure se barre. Là, on redescend, et c'est le système parasympathique du repos qui se met en branle. D'un coup, ça fait tout le contraire, on est un peu stone, on commence à être fatigué, tout commence un peu à ralentir, mais parce que d'un coup il s'est mis comme ça, et d'un coup il s'est mis comme ça, ça. Ça fait que c'est un peu une petite chute d'énergie, quoi. Là, on n'est plus détendu, on est en mode repos. Mais si la situation, le dinosaure est encore là et essaye de rentrer dans la grotte, et bien là, on va passer à la deuxième phase, qui est la phase de résistance. Là, le corps, il se met en mode adaptation à la situation. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire ? Et là, la phase de résistance, elle est beaucoup plus longue que la phase d'alarme. Et là, ce qui est après l'adrénaline, ce qui est sécrété, c'est ce qu'on appelle le cortisol. Et ça, cette hormone, elle est hyper importante parce que elle fait chier. En tout cas, elle provoque plein de réactions en chaîne dans le corps. En gros, le cortisol est sécrété, c'est sécrété aussi par du coup les surrénales et ça active la production de sucre dans le sang. En tout cas, il va aller chercher du sucre dans le corps ou prendre du gras, le transformer en sucre pour pouvoir avoir de l'énergie. Et il faut savoir que une minute de stress, c'est une heure de cortisol dans le corps. Ça veut dire une heure de stress, 8 heures de cortisol, 2 heures de stress, une journée entière. Et dans cette phase de résistance, il va y avoir aussi une augmentation de ce qu'on appelle les radicaux libres. C'est comme des cellules à qui il manque quelque chose et du coup qui vont aller chourer aux autres cellules ce qui leur manque. Mais du coup, ça va faire que la cellule à qui on a chouré un truc devient un radical libre qui va faire que, en fait, ça va faire des réactions en chaîne et que ça abîme d'autres cellules, ça abîme d'autres cellules et tout ça. Et ce qui fait que ça fout pas. Pendant cette phase de résistance aussi, il y a d'autres hormones qui sont sécrétées, l'endorphine, la dopamine, la sérotonine et tout ça. Mais pendant cette phase, le cortisol est sécrété et la sérotonine monte puis commence à baisser. Et c'est là que quand on est en phase de résistance, que le stress il devient chronique, qu'on commence à avoir un peu des sautes d'humeur, qu'on commence à aller chercher un peu dans la bouffe des sources de plaisir. Du coup, le magnésium, c'est pareil, dont le corps a besoin, et notamment pour un truc d'énergie, il va se mettre à baisser, et quand on manque de magnésium, on est très fatigué, on peut avoir des problèmes de concentration et de mémoire, et en gros, littéralement, en stress chronique, on pisse du magnésium. Vraiment, c'est sécrété par les urines, et Et voilà, et la dernière hormone qui commence à baisser aussi, c'est la dopamine, le starter du matin. Du coup, si elle baisse, on va être, avoir beaucoup moins de motivation, du mal à démarrer et tout ça. Et là, pareil que la phase d'alarme, stress chronique, le dinosaure est toujours là, et là il s'en va. Première solution, ça baisse, on se met en mode repos, le système parasympathique se met en branle, du coup fatigue, etc. Et tout va bien et ça s'arrête là. Bon, le cortisol continue encore un peu après, mais ça s'arrête là. Par contre, si la situation est stressante, elle est encore là, là, le corps n'arrive plus du tout à s'adapter et on arrive dans la troisième phase qui est la phase d'épuisement. Et là, c'est le drame. Parce que à la fin de la phase d'épuisement, c'est l'effondrement. C'est le burn-out. Là, la sécrétion de cortisol dans la phase d'épuisement, elle est très très importante. Et d'un coup, le taux il chute brutalement, ainsi que la dopamine, ainsi que la sérotonine, et c'est l'effondrement total. C'est même ce que j'ai écrit, la désorganisation biologique, ça fout un bordel pas possible. Et du coup, il va y avoir beaucoup de manifestations physiques et psychologiques qui vont avoir lieu à ce moment-là, quoi. En gros, ce que j'ai écrit, c'est que le stress chronique, c'est une répétition trop fréquente des phases, des mécanismes d'alarme et de résistance, sans jamais de retour normal à un truc physiologique un peu équilibré, quoi. Et donc, les conséquences de tout ça, là, de passer par la phase de résistance et de trop longtemps, puis la phase d'épuisement, il y a énormément de conséquences. Notamment, quand il y a trop de cortisol, ça fait baisser le système immunitaire, du coup, on va choper beaucoup plus de trucs. Ça peut provoquer de l'hypertension, du diabète. Ça provoque aussi très souvent des troubles digestifs. On va avoir mal au ventre, on va avoir des gaz, des ballonnements, des diarrhées, de la constipation, etc. Pour plusieurs raisons, et notamment parce que l'adrénaline qui est sécrétée pendant la phase d'alarme, elle emmène le sang, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, vers le cerveau, d'autres organes et tout ça, au détriment du système digestif. Ce qui peut faire que quand on est stressé, souvent on n'a pas faim. On a un ventre un peu tout noué, et j'ai parlé des diarrhées, des constipations, mais c'est aussi que le stress dans les intestins, on a des cellules qui sont un peu toutes serrées comme ça, et à cause du stress, elles vont se mettre à s'écarter entre elles et du coup laisser passer des molécules dans l'organisme qui normalement auraient dû être digérées, qui ne sont pas digérées. Et elles vont activer ces molécules, les neurones qui envoient le message de la douleur au cerveau et qui va faire qu'on va ressentir des douleurs. Ça va aussi, et l'autre raison, c'est que quand on est stressé, qu'on a des fortes émotions, on a un muscle ici qui s'appelle le diaphragme. Et qu'en fait, quand on est stressé, il va complètement se contracter et va faire, entre autres, qu'on va avoir du mal à respirer à fond. Et aussi qui va coincer le début du système digestif et notamment l'estomac, mais qui peut aussi bloquer un peu le foie qui est juste ici, la vésicule biliaire. Et en tout cas, quand on a l'impression de ne pas respirer à fond et que ce n'est pas un problème dû au poumon, il faut se poser la question de est-ce que mon diaphragme il ne serait pas un peu compressé. Et pour ça, pour le débloquer, notamment de respirer, faire des exercices de respiration qui permet avec le ventre notamment, ça permet un peu de détendre le diaphragme. Mais aussi l'ostéopathie, la kiné, l'acupuncture, ça peut agir dessus. En plus d'essayer de faire en sorte que cette source de stress n'existe plus. Et ce diaphragme tout compressé, il peut aussi faire qu'on se retrouve avec des maux de dos qui vont être situés plus ou moins en face du diaphragme parce que tous les muscles sont reliés entre eux et s'il y en a un qui est tout contracturé, il va tirer sur les autres. Et des fois, c'est pas juste un problème de dos, une vertèbre qui se déplace, mais le fait que le diaphragme est tout compressé. Et ces douleurs musculaires, qui peuvent être aussi des douleurs articulaires, tendinites, etc., c'est pas forcément des raisons mécaniques d'avoir trop forcé dessus, mais c'est aussi une des conséquences du stress. Et notamment parce que le stress, il y a un truc chimique qui se fait dans le corps qui va, il va y avoir une fabrication d'espèces de cristaux, des petits sels qui normalement sont, qui ce qu'on appelle des acides, qui sont normalement évacués par les urines. C'est pour ça que souvent le matin nos urines elles puent et elles sont très jaunes parce que pendant la nuit les reins ils trient et le matin ils évacuent ces acides. Si on ne boit pas assez d'eau, s'il y a trop d'acide, si les reins galèrent pour une quelconque raison, la peau peut prendre le relais et du coup ces acides vont sortir par la peau, ce qui va faire que donc, par exemple on pourrait avoir des. On peut transpirer plus que d'habitude, notamment avoir des sueurs nocturnes, avoir la peau sèche, qui pique ou qui hydrate, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est une tentative du corps de passer par un autre chemin pour sortir ces acides. Mais si pour plein de raisons il y en a trop, dans ce cas-là ces acides il faut qu'ils aillent quelque part, il faut que le corps en fasse un truc et du coup il va aller les stocker dans les muscles, les tendons, les articulations et du coup provoquer des inflammations, ce qui va provoquer des douleurs. Donc je vous conseille de boire de l'eau. ça peut être, du coup, le stress chronique, ça peut aussi provoquer des migraines, des allergies, des problèmes cutanés, notamment l'eczéma, le psoriasis, des trucs comme ça. Et aussi au niveau émotionnel, il y a trois émotions principales que ça peut déclencher. C'est l'anxiété, la dépression, la colère, l'agressivité et tout ça. L'anxiété, c'est quand on ressent comme s'il y avait c'est une sensation de danger imminent et l'impression de se sentir impuissant, impuissante face à ce danger. C'est un peu les mêmes symptômes que la phase d'alarme, c'est comme s'il y avait d'un coup. Il peut y avoir des raisons à l'anxiété, mais aussi des fois de se sentir anxieux et anxieuse, mais qu'il n'y ait pas de raison réelle, quoi. Mais ça va être les mêmes symptômes. Du coup, on va transpirer, le cœur qui accélère, on a une boule dans la gorge, on est tout compressé du thorax, on peut trembler, avoir des troubles du sommeil. Et ça, l'anxiété, ça peut se transformer en crise d'angoisse et en phobie. Et la dépression, c'est plutôt un effondrement de l'humeur, où la tristesse, elle est très présente. On peut avoir aussi des douleurs, des troubles de l'appétit, ça veut dire se mettre à beaucoup manger ou au contraire ne plus trop manger. On peut se mettre à beaucoup dormir ou au contraire très peu dormir. On a du mal à se concentrer, à prendre des décisions, on se sent pas bien, on est un peu ralenti et ça peut aller jusqu'à avoir des pensées et des envies de suicide. Et une des conséquences du stress chronique, qui est la fin de la phase de l'épuisement, c'est le burn-out. Ça va, vous arrivez à être concentré?
Oui.
Est-ce que vous pourriez me dire l'heure juste pour savoir si.
Il est 16h32.
Ok, très bien. Le terme de burn-out, il a été inventé parce qu'en gros, ça veut dire se consumer entièrement. Le burn-out, c'est vraiment l'effondrement, quoi. C'est s'éteindre complètement. C'est l'étape d'après. La résistance, l'épuisement, qu'on appelle plutôt, souvent dit on est un burn-out, mais en vrai c'est comme c'est plutôt un état de surmenage. Et c'est l'image de l'élastique que j'ai dit tout à l'heure, c'est le système nerveux sympathique qui est l'élastique extrêmement tendu et qui à un moment cet élastique il pète d'un coup. Et c'est vraiment d'un coup, ça veut dire. C'est comme si on appuyait sur un interrupteur off et d'un coup le corps ne fonctionne plus, la tête ne fonctionne plus. Et ça peut avoir plein de manifestations à la fois émotionnelles, cognitives, comportementales, sur la motivation et aussi des manifestations physiques. Je vous ai un peu indiqué le détail, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est en gros, c'est l'ensemble de toutes les conséquences du stress qui se retrouvent dans le burn-out et qui impacte vraiment très très fort la vie de quelqu'un qui fait un burn-out, parce que ça peut arriver que des gens, enfin il y a plusieurs stades du burn-out, mais des gens qui font des burn-out du jour au lendemain ne savent plus comment conduire une bagnole, se servir d'un ordinateur, arriver à parler correctement, impossible de mémoriser quoi que ce soit, impossible de réfléchir, de prendre des décisions, enfin la vie normale s'arrête un peu d'un coup. Et comme toutes ces phases de stress chronique durent en plus depuis longtemps, et ben il faut aussi beaucoup de temps pour se remettre d'un burn-out et réparer un peu tout ce que ça a pété dans la vie, quoi. Et plutôt, ça peut prendre même plusieurs années. Il y a une psy qui m'a dit moi je conseille aux gens qui ont fait un burn-out d'avoir un arrêt de travail pendant un an complet, total, et la deuxième année, si les gens le sentent, de se mettre à mi-temps, quoi. Mais 2 ans, je pense, c'est minimum pour arriver à se réparer de ça, quoi. Et ce qui est le plus important dans la récupération, c'est le sommeil et le repos. Parce que le corps, pour pouvoir se réparer, c'est le système parasympathique, c'est le système du repos. Faut éviter le plus possible les charges mentales, les situations de stress, parce que le corps, il ne sait plus gérer. Il ne va plus réagir de la même manière qu'un stress normal. Tout son système d'alarme, il se met en branle, mais de manière un peu démesurée. Du coup, n'importe quelle situation de stress devient un énorme truc, quoi. Et il faut essayer de faire en sorte que les activités que les personnes font en burn-out soient plutôt des activités qui apportent de l'énergie plutôt qu'ils en prennent, parce qu'il n'y a plus d'énergie. Du coup, il faut éviter de continuer à puiser dans le peu d'énergie qui reste. Et après, un accompagnement psychologique, c'est très important aussi, parce que ça permet de aller creuser pourquoi est-ce qu'on en arrive à faire un burn-out et c'est quoi qu'on peut changer dans notre vie pour ne plus avoir à le refaire, parce qu'il y a des gens qui en font plusieurs dans la vie. Et c'est un peu une grosse leçon de vie de faire un burn-out. Ça remet en question l'entièreté de son comportement, de ses réactions, de tout ça. Du coup, c'est un gros changement. Mais parce que le burn-out, en fait, c'est une... Mais comme tout ce qui se passe physiologiquement, c'est une réaction, en gros, de survie. Le corps, il se met sur off parce qu'il dit, là, en fait, c'est soit c'est la mort, soit je te fais arrêter complètement parce que là, c'est plus possible. Je vais imploser totalement, quoi. Du coup, en fait, c'est quand même pas mal fait. Que d'un coup, il se dit stop. Enfin, comme le malaise vagal, c'est d'un coup, je sais pas, grosse douleur, hop, on tombe dans les pommes. C'est aussi le corps, il dit, bon, ben, c'est soit je meurs de la douleur parce que c'est insupportable, soit je te mets en évanouissement parce que comme ça, je suis moins en mode de survie, quoi. En gros, il disjoncte. Parce que nos limites, elles ont été largement dépassées. Et du coup, il dit, vas-y, je descends le disjoncteur.
Je peux poser une question?
Ouais.
Quand on parlait d'activités qui donnent de l'énergie et d'activités qui prennent de l'énergie, mais c'est quelque chose d'un peu personnel, ça?
Ouais.
Non, on est d'accord, ouais. Les activités qui
donnent, qui prennent de l'énergie. C'est à la fois personnel et parfois, c'est un peu... ça peut être aussi... enfin, général, oui, c'est en tout cas, c'est sûr, c'est très personnel. Et à la fois, des fois, j'ai pas d'exemple en tête, mais je pense qu'on se dit, ah, je vais faire ça, ça va me faire trop du bien. Mais en fait, par exemple, une activité physique, ça demande de l'énergie. Ça fait du bien, mais ça demande de l'énergie. Et quand on est en burn-out, les activités physiques, il faut les éviter le plus possible. En tout cas, le faire un petit peu et tout ça, mais pas se mettre à faire un énorme truc, parce que ça va amener de l'épuisement, quoi. Voilà. Allez. Je pense que j'aurais pas du tout le temps de dire tout. Je vais pas vous détailler. Je vais vous parler du sommeil. Je vais pas détailler en détail tout ce qu'il y a dans la brochure. Je vais y aller un peu plus vite. Mais en gros, le sommeil, c'est extrêmement important. C'est très important du point de vue de sa qualité, mais aussi de sa quantité. J'ai écrit qu'un adulte, ça a besoin d'environ 7h30 de sommeil par jour. C'est une moyenne. Il y a des gens qui en ont besoin de moins, il y a des gens qui en ont besoin de plus. Mais c'est pas fixe et regarder sa montre et dire « Ah mince, j'ai que 7 heures, ça va pas du tout ». Ça dépend des gens. Faut savoir qu'avant, avant l'ère industrielle et du capitalisme, on dormait beaucoup plus que maintenant. Et c'est pas anodin. Je pense sur la vie des gens, le fait qu'on dorme moins. Et toutes les espèces dorment, même les bactéries. En tout cas, ont des phases de repos. Et le sommeil est très important parce que ça permet de récupérer à la fois et physiquement et mentalement. Notamment, par exemple, mentalement par rapport soit aux émotions, mais aussi par rapport au stress et par rapport à l'apprentissage et la mémoire. Souvent, on dit que pendant le sommeil, on révise un peu ses devoirs parce que ça permet, en fait, ça permet de mémoriser les trucs qu'on apprend, mais mémoriser aussi ce qu'on vit, parce que il y a une espèce de tri et d'archivage dans le cerveau qui se fait quand on vit quelque chose, et pendant la nuit on archive ça. Et c'est pour ça que maintenant, quand il y a des catastrophes naturelles, des attentats et tout ça, l'État dépêche une équipe de psy pour voir les gens qui ont été impactés avant qu'ils dorment, pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait le moins possible de stress post-traumatique, qui est dû au fait que quand on vit un événement très fort émotionnellement, un trauma, le souvenir, l'événement rentre par le cerveau, et normalement quand on vit un truc normal dans la nuit, hop, ça arrive d'un côté du cerveau et puis c'est rangé de l'autre côté du cerveau dans une espèce de bibliothèque. Et quand on vit un trauma, ça reste bloqué dans la première partie. Et en fait, ça n'arrive pas à être archivé. Et du coup, ce qui fait qu'on est impacté émotionnellement par ça, qu'on va avoir des flashbacks, des cauchemars et toute une liste complète de conséquences au stress post-traumatique. Et qui fait que si on arrive à pouvoir en parler avant, essayer d'utiliser des outils pour que ça soit bien archivé, notamment ce que fait la technique de l'EMDR, si vous avez déjà entendu ça, qui permet de reprogrammer le cerveau pour archiver le trauma dans le bon endroit, qui fait qu'on n'oublie pas le souvenir, mais qu'il n'y a plus d'impact émotionnel aussi fort que avant, quoi.
Et ça, c'est assez binaire, genre soit c'est rangé, soit ça ne l'est pas.
Ouais. En gros, c'est ça, ouais. Si c'est pas rangé, c'est que ça devient un stress post-traumatique, quoi. Enfin, un trauma, quoi. Qui... attendez, je vais trouver ma page. Aussi, pendant la nuit, ce que j'ai dit par rapport aux reins, mais en fait, pendant la nuit, le foie et les reins, qui sont des organes qui, en fait, filtrent tous les déchets qui passent par le corps, pendant la nuit, ils se mettent à trier tous ces déchets et à les envoyer vers les organes qui vont les sortir du corps. Si on dort mal ou pas assez, et ben ce travail-là, il va moins bien se faire. Les cellules, elles vont se réparer puis se renouveler aussi pendant la nuit. Le système immunitaire, il va aussi se renforcer. Et donc, tout à l'heure, je disais que la mélatonine, c'était un des processus qui régule un peu l'alternance jour-nuit. Et elle dépend du coup de la quantité de lumière qui parvient à la rétine. Et qui va, du coup, sa synthèse, elle va augmenter dès la tombée de la nuit pour arriver à bien s'endormir. Voilà. Et le deuxième processus qui agit dans le truc du sommeil, c'est le fait que le cerveau, de l'activité du cerveau, elle va sécréter un espèce de déchet qui va finir par arrêter un peu cette activité du cerveau et qui va entraîner le sommeil. Et pendant la nuit, ce déchet, il va être un peu éliminé au fur et à mesure, du coup le foie, les reins, tout ça. Et quand le taux de ce déchet il est suffisamment bas, c'est là que le réveil se déclenche. En fait, il y a plusieurs phases du sommeil. Il y a le sommeil, il se déroule par cycle. En fait, il y a 3 à 5 cycles qui se passent au long de la nuit et qui changent, enfin qui alternent toutes les 90 minutes, c'est-à-dire toutes les 1h30. Et chaque cycle se compose de 5 phases. Ça veut dire que chaque cycle, le sommeil il va passer par 5 phases et hop, ça recommence au bout d'une heure et demie. C'est pour ça, par exemple, que on peut se réveiller la nuit. C'est qu'entre chaque cycle, il peut y avoir des micro-réveils. Mais très généralement, on se rendort direct. Si on ne se rendort pas et qu'on se met à réfléchir et tout ça, c'est qu'il y a une cause qui perturbe ça. Mais normalement, c'est normal et souvent, on ne s'en rappelle pas, d'ailleurs. Mais chaque cycle recommence et recommence et recommence. C'est pour ça que faire une sieste de 20 minutes, c'est très bien. Mais faire une sieste de 1h30 quand c'est possible, et ben c'est encore mieux parce qu'on fait un cycle entier. Même si on ne dort pas profondément, puisque justement le cycle dure 1h30 et qu'au début, c'est l'endormissement et jusqu'à arriver au sommeil profond. Je ne vais pas vous les détailler, les 5 phases, mais en gros, le début, c'est un peu quand on est un peu somnolent, qui est le moment où on s'endort, qui est une phase qui est censée durer pas plus de 20 minutes. Si cette première phase-là dure plus de 20 minutes, il faut chercher pourquoi on n'arrive pas à s'endormir, notamment parce qu'on a un petit vélo dans la tête, ou ce qui veut dire des pensées qui sont en boucle, du coup d'essayer d'agir là-dessus. Mais en tout cas, on est censé pouvoir s'endormir assez rapidement. Pendant cette phase, un peu tout ce qui se passe dans le corps commence un peu à se calmer, le système parasympathique se met en route et les yeux bougent. Ensuite, on arrive dans le sommeil léger, puis léger profond, là où notre cerveau est ralenti et nos yeux arrêtent de bouger. Et ensuite, il y a le sommeil profond, où là vraiment on est complètement coupé du monde, où tout est ralenti, notre corps est complètement immobile, on respire moins vite, notre température corporelle elle descend. C'est le moment du somnambulisme ou des terreurs nocturnes, c'est le moment du sommeil profond. Et cette étape, elle est vraiment indispensable pour la récupération physique. Et il y a des gens qui n'arrivent jamais au sommeil profond et du coup qui ne récupèrent pas, ne récupèrent jamais physiquement. Et la dernière étape, c'est le sommeil paradoxal, c'est le moment où on rêve. Du coup, ça fait qu'on va rêver plusieurs fois par nuit parce que cette phase-là va revenir plusieurs fois dans la nuit. Et là, par contre, nos yeux se remettent à bouger, notre cerveau il se met à travailler, à être actif super fort. Notre cœur il va des fois ralentir, des fois accélérer, notre respiration aussi. Et du coup, cette phase elle se déroule toutes les 90 minutes. Je vais boire un coup.
Ouais, de l'eau.
Est-ce que ça va toujours? Je ne m'endormais pas.
C'est super. Ça serait cool. En fait, il y a fait sommeil profond, ça dure 1h40 en
plus. Ouais, je viens de dire ça, je ne sais pas pourquoi.
Le total, c'est
sur la totalité. Mais peut-être que c'est sur la totalité du sommeil, en fait. Ah, oui. Voilà. Tout à l'heure, j'ai parlé de la mélatonine qui était quelque chose qu'on pouvait prendre pour favoriser l'endormissement. Aussi, il y a les somnifères qui existent. Mais il faut savoir que les somnifères provoquent une dépendance physique et du coup, il ne faut jamais les arrêter du jour au lendemain parce qu'il y a sinon des symptômes de sevrage et on ne va pas du tout réussir à s'endormir parce que aussi le corps il s'est habitué à avoir ça et à plus se démerder tout seul pour pouvoir s'endormir. Et aussi, ça développe une accoutumance, c'est-à-dire que le corps il va s'habituer et ça va faire que les somnifères ils vont avoir de moins en moins d'effets. Et plutôt, il faut éviter de les prendre plus que 3 semaines d'affilée, ce que je pense, ce qui n'arrive pas souvent. En tout cas, je vois des gens qui en prennent depuis de nombreuses années et c'est pas anodin de prendre ça. Mais de toute façon, rien n'est anodin, même les plantes ne sont pas anodines. Et le truc des somnifères, c'est qu'on se réveille quand même le matin bien dans le pâté. Que finalement le sommeil n'est pas tant réparateur que ça. A priori, ça nous fait se réveiller la nuit, mais on ne s'en rappelle pas le matin. Et voilà. Et l'autre médoc qui, des fois, est, je ne sais pas s'il est conseillé par des médecins, mais en tout cas, des personnes peuvent prendre des antihistaminiques contre les allergies parce que ça a un effet sédatif du coup, qui fait dormir. Ça ne provoque pas d'accoutumance comme les somnifères. Par contre, on se sent un peu groggy dans la journée et ça peut provoquer de la constipation et le fait d'avoir la bouche sèche. J'ai pas abordé les anxiolytiques et les antidépresseurs dans la brochure. Je vais le rajouter. Parce que moi, en tout cas personnellement, je ne suis pas anti-médicaments. C'est pas parce que je fais de l'herboristerie et de la naturopathie que je suis contre la médecine générale et les médicaments. Au contraire, je pense que ça se complète largement. Et que quand on a essayé plein de trucs, que ce soit des trucs en dehors des plantes, les plantes, et que ça ne marche pas ou que ça ne fait pas assez d'effet, et ben pour moi, il ne faut pas hésiter à aller prendre des anxiolytiques ou des antidépresseurs, parce que en fait, c'est aussi une question de survie que l'anxiété qui va finir par des crises d'angoisse et la dépression, ça peut amener à avoir envie de mourir. Et que ça pourrit la vie très très fort, et notre vie personnelle, mais aussi notre entourage, des problèmes de sociabilité et tout ça, et qu'à des moments, en fait, c'est indispensable d'en arriver là, quoi.
Pour moi, le Lexomil, c'était un anxiolytique.
Ben, moi aussi, mais le Xanax, le Tranxène aussi, mais dans ce que j'ai cherché, c'était indiqué que les somnifères, ils faisaient souvent partie de la famille des benzodiazépines.
Donc c'est des somnifères.
Je pense que c'est parce que c'est des anxiolytiques qui sont aussi sédatifs. Ouais.
C'est ça, en fait, il y a deux sortes. Il y a des excitants et des sédatifs.
Oui, c'est ça.
En tant qu'antidépresseur.
Et que je pense que ça agit du coup sur le système nerveux parasympathique qui vont faire que du coup tu vas être moins anxieux, plus calme, plus tranquille, mais qu'aussi ça va t'endormir, quoi. Dans la brochure, j'ai un peu écrit toute une liste de ce que j'appelais trucs astuces, comme si c'était des recettes de cuisine. C'est pas du tout exhaustif, je suis pas mal partie de mon expérience personnelle, mais il faut pas prendre ça comme argent comptant, ça marche pas sur tout le monde. C'est aussi chercher vous-même des trucs pour à la fois agir sur le sommeil mais aussi agir sur le stress. Et pour moi, le plus important, c'est le système nerveux parasympathique qui est mon préféré là. C'est vraiment le repos. Du coup, c'est à la fois faire ce que j'ai dit et je répète, l'importance du sommeil, c'est sa quantité mais aussi sa qualité. Ça veut dire que quand on a du sommeil en retard, on appelle ça des dettes du sommeil et c'est des dettes qu'il faut absolument rattraper parce qu'en fait elles s'accumulent. Ça veut dire si on a fait une nuit de 3 heures et que le lendemain on a fait une bonne nuit, ça ne veut pas dire qu'on a rattrapé son manque de sommeil de la nuit d'avant. Ça veut dire qu'il faudrait que même presque dormir plus, en tout cas on peut avoir une vie entière de dette de sommeil et vraiment avoir besoin de... En fait, tout ce sommeil en retard, il a besoin d'être rattrapé. Moi, je peux donner un exemple personnel. J'ai du coup fait un burn-out il y a 2 ans. Du coup, d'un coup, je dormais entre, je sais plus, 12 et 15 heures par jour, entre les nuits de sommeil plus les siestes. Enfin, j'avais vraiment beaucoup besoin de dormir. Et ensuite, donc ça a duré quand même très longtemps, je dirais peut-être un an. Ensuite, c'est passé à plutôt 10 heures de sommeil par nuit, ce qui est énorme. Et là, je me rends compte que depuis quelques mois, j'ai besoin plus que de 7-8 heures. Je continue avec mon réveil pour avoir au moins 9 heures, mais je me réveille systématiquement avant le réveil. Et je me suis dit, bon, ben en fait, j'ai mis 2 ans à rattraper tout mon sommeil en retard des 40 années avant, des 38 années avant. Mais qu'en fait, c'est pas anodin, enfin, de me dire, là, il y a eu un changement. Pourquoi ? Mais peut-être, ben oui, peut-être que là, j'ai rattrapé cette dette, quoi. Bon, faut avoir le temps hein, de dormir 12 heures par nuit. Hein. Mais voilà, ça veut dire que c'est pas anodin d'avoir du sommeil en retard qui s'accumule. Du coup, je redis, n'hésitez pas à faire des siestes de 20 minutes, voire de 1h30 si vous avez la possibilité. Et aussi le fait de ce que je disais, de pouvoir alterner des moments où on est en pleine action et c'est le système nerveux sympathique qui se met en route, et aussi dans des modes de repos pour que le système parasympathique se mette en branle. Et ça veut dire dans la même journée, il faut alterner aussi des moments à donf et des moments tranquilles. Il faut faire des pauses, il faut avoir des week-ends, il faut avoir des soirées tranquilles, il faut prendre des vacances. Enfin, c'est un peu une injonction parce que vraiment, je pense que on oublie que les vacances, ça existe. De sortir aussi de... En fait, c'est aussi essayer d'éviter le plus possible les situations de stress comme on peut. Ça, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire. Mais le fait de sortir à partir quelques jours ailleurs ou passer une journée ou une soirée en dehors d'un contexte stressant, ça fait que là, le système parasympathique, il se met en route, que le taux de cortisol, il peut descendre, enfin, que tout redescende, quoi. Et dans notre vie hyperactive, c'est je le vois et moi je l'ai subi, je veux dire personnellement j'ai fait ça et c'est faut garder en tête que c'est important de avoir des moments de repos. Ça veut dire pas blinder son agenda, pas blinder l'entièreté de son agenda matin, midi et soir, quitte à faire un moment. Moi je mettais des espèces de croix comme ça sur la demi-journée ou sur la journée en disant ok, j'ai rien prévu ce jour-là mais je vais rien prévoir parce qu'en fait je vais voir ce jour-là, quand je vais me réveiller, dans quel état je suis, est-ce que je suis fatiguée, est-ce que je suis pas bien émotionnellement, du coup, qu'est-ce que j'aurais envie de faire pour me faire du bien, ou est-ce que je vais faire un truc, une activité, un truc actif, ou au contraire, je vais me reposer, quoi. Mais sauf qu'avec notre réunionnite aiguë, eh ben, c'est compliqué de faire ça. mais ça veut dire qu'il faut aussi faire le tri entre c'est quoi nos priorités, c'est quoi, ouais, comment moi je me sens, est-ce que je me sens surmenée, ah mais attention, est-ce que si je continue dans ce truc-là, est-ce que je vais passer du côté obscur de la force, ou alors je me dis bon, bah, vas-y, je freine un peu, je ralentis, je me fais une demi-journée de grasse mat, ou je vais lire des BD, ou je vais me promener, ou voilà. Et alterner du coup dans activités qui prennent de l'énergie et des activités qu'en donnent. Par exemple, en tout cas pour moi qui suis une campagnarde absolue, habiter en ville, ça prend de l'énergie. Aller se balader à la campagne, ça en donne. L'autre truc qui est important, c'est la respiration. Quand on est stressé, en fait, on hyperventile. Notre respiration, elle accélère, ce que j'expliquais tout à l'heure. Et ça fait que il se crée un déséquilibre entre l'oxygène qu'on inspire et le CO2 qu'on expire. Ce qui fait que ça fout le bordel. Et que d'essayer de faire des exercices de respiration, ça permet d'équilibrer les deux entre l'oxygène qu'on sort et le CO2, l'oxygène qu'on inspire et le dioxygène qu'on expire. Et ça permet d'équilibrer les deux et en fait ça fait aussi baisser le rythme cardiaque, baisser la pression artérielle, le taux de cortisol se met à baisser, nos muscles se détendent et notamment ce que j'expliquais avec le nerf vagal, c'est de respirer par le ventre, parce qu'en vrai, on respire très souvent que par le haut des poumons, alors qu'en fait, les poumons, ils vont jusque là, et qu'on on reste bloqué à là, souvent, ou un peu là, mais ça va rarement plus bas, mais en fait, on peut respirer aussi en gonflant le ventre, en écartant les côtes, en gonflant le thorax et en gonflant les épaules, quoi. Et ça fait une inspiration et une expiration super longue. Et dans moi, ce que j'ai, il y a plein d'exercices de respiration possibles. Ce qui est un peu connu et dont on parle beaucoup en ce moment, c'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Parce que c'est un exercice où on va inspirer 5 secondes, expirer 5 secondes. Du coup, c'est symétrique. Et ça fait que du coup, le cœur va se mettre à battre un peu de manière tranquille et pas en faisant des sauts de rythme, quoi. Tout à l'heure, j'ai parlé des écrans qui leurrent le cerveau, qui pensent que c'est le jour et du coup, qui ne sécrètent pas la mélatonine. Du coup, j'ai envie de vous dire, et ben, peut-être regarder des séries une après-midi où vous faites une pause plutôt que juste avant de se coucher. Aussi, le problème du téléphone, on a du mal à éteindre son téléphone la nuit, mais ça fait que on n'est pas réveillé par le vibreur de tous les groupes signal. Ça fait qu'on n'a pas aussi en plus tous les trucs de wifi qui peuvent perturber le cerveau et provoquer des troubles du sommeil. Voilà, c'est un choix d'éteindre son téléphone aussi, de le mettre en mode avion. Et il y a un autre truc, je ne saurais pas expliquer, mais des fois on peut ne pas comprendre pourquoi on n'arrive pas trop à dormir ou qu'on a des troubles du sommeil en ayant à peu près fait tout le reste. C'est que parfois on a une prise électrique à côté de notre lit et en plus surtout avec un appareil branché dessus, et en fait ça provoque des espèces d'interférences comme ça. Et je pense notamment, je sais pas si c'est en lien avec le fait que les neurones c'est des impulses électriques et qu'il se passe des trucs électriques dans le corps, mais ça peut provoquer le sommeil. Et aussi des fois on va se réveiller la nuit et c'est des états de hypervigilance, mais parce que c'est dû à des trucs de stress, à des trucs traumatiques, le fait qu'il y a quand même beaucoup de bruit la nuit par les véhicules, mais aussi par les gens qui se mettent à hurler qu'on ne sait pas pourquoi et que d'un coup on se réveille en sursaut parce que qu'est-ce qui se passe. Alors c'est aussi un choix comme d'éteindre son téléphone, c'est de mettre des boules de caisse dans la nuit pour éviter et de se faire réveiller par le train qui passe ou par quelqu'un qui crie, ou en fait juste la personne a crié et il se passe rien mais ça nous a réveillé, ou un chien qui aboie, ou voilà. Voilà, je vais pas détailler l'alimentation, mais bon. Voilà, c'est très important de bien manger, mais ça veut tout et rien dire. Mais notamment pour tout ce truc de neurotransmetteurs, des protéines, qu'on a besoin du fer, qu'on a besoin des minéraux, des vitamines et tout ça. Et si on manque de ça, il y a plein de réactions chimiques dans le corps qui vont pas se faire ou qui vont mal se faire. C'est des conseils, mais ça ne veut pas dire qu'il faut être drastique et faire ça tous les jours. Mais il vaut mieux manger des protéines le matin, parce que ça va permettre la synthèse de la dopamine et de bien démarrer le matin. Le midi, c'est mieux de manger plutôt des trucs gras et des féculents qui vont apporter du sucre, parce que ça va aider à la fabrication de la sérotonine. Et après le soir, plutôt ce que j'ai dit tout à l'heure, un repas plutôt léger et assez loin du coucher, parce que sinon ça perturbe le sommeil et ça perturbe la digestion de s'endormir le ventre plein. Et après, il y a différents ingrédients qui vont, on va dire, nourrir le système nerveux, qui vont apporter des éléments essentiels au fonctionnement du système nerveux. J'ai parlé des radicaux libres tout à l'heure, là, les cellules abîmées qui vont abîmer d'autres cellules, etc., qui font des réactions en chaîne. Et ce qui contrecarre ces radicaux libres, c'est ce qu'on appelle les antioxydants. Parce que les radicaux libres, ils oxydent les cellules et du coup, les antioxydants, ils permettent de protéger, entre autres, les neurones. Et ça, c'est dans tous les fruits et légumes qui sont colorés, notamment rouge, jaune, orange. Et on en trouve dans plein d'aliments que j'ai détaillés dans la brochure. Il faut faire attention au fer, aux vitamines du groupe B, parce que les vitamines du groupe B, elles aident à la communication entre le cerveau et les nerfs. Et les oméga 3 qui aussi servent au système nerveux et qui permettent un peu de amoindrir les effets de la dépression, des sautes d'humeur et tout ça. Et ensuite, autour du corps, le fait de bouger, quel qu'il soit le type de mouvement, c'est pas forcément faire du sport à donf, c'est aussi marcher, se déplacer, s'étirer, s'échauffer, danser, tout ça c'est du mouvement. En fait, c'est important parce que ça sécrète de l'endorphine, qui est ce qu'on appelle une hormone du bien-être là. Mais aussi la sécrétion d'endorphine, elle fait baisser le taux de cortisol. Par contre, de faire un truc très physique avant de dormir, ça peut ça peut perturber l'endormissement. Et il y a un truc qui est un peu incroyable, je ne vais pas vous détailler, mais quelqu'un a fait des recherches là-dessus, c'est qu'il y a un truc lié à la posture. C'est que quand on se tient tout comme ça, là, et ben en fait, le corps sécrète du cortisol. Alors que quand on se tient avec les épaules vers l'arrière et bien droite, et ben là, on sécrète de la testostérone. Et enfin, je veux dire, tout genre confondu, le corps sécrète de la testostérone qui provoque de la confiance en soi et un sentiment de un peu de puissance, quoi. Vous voyez ?
Parce que quand tu marches, tu prends toute la largeur du trottoir.
Ensuite, on en avait déjà un peu parlé, même si j'étais pas là pendant la permanence soin sur le burn-out, c'est le fait que quand on a aussi une vie qui peut être soit familiale ou collective, comme chez nous, on est tout le temps avec des gens, familiales ou professionnelles ou tout ça, qu'on est tout le temps avec des gens, en fait, se retrouver seul, c'est super. Je ne vais pas détailler pourquoi, parce que vous pouvez le lire dans la brochure, mais je sais que ça fait peur à plein de gens de se retrouver seul, mais en vrai ça amène plein d'énergie, ça fait qu'on peut se reposer, qu'on n'a pas un masque social en permanence de qu'il faut se faire aimer des gens, tout ça, on peut être habillé n'importe comment, on peut faire n'importe quoi, manger ce qu'on aime, voilà, et se parler à soi-même, même tout fort, enfin voilà. En tout cas, moi je vous conseille d'arriver à le faire de temps en temps, parce que plutôt nos vies collectives nous empêchent de faire ça, et je pense que c'est à notre détriment. Voilà, aussi si on a les moyens, et la caisse de la permanence soin peut permettre d'aller voir aussi, d'être accompagné psychologiquement. Il y a plein d'outils, mais ça peut permettre de se décharger de plein de stress, hein, plein de trucs qui vont nous causer du stress. Voilà, et pour finir, j'avais très envie d'écrire quelque chose sur le toucher. Parce que le toucher, c'est un besoin vital, aussi bien que respirer, manger, boire et tout ça. Il y a des études horribles, mais horribles, dont je ne vais pas vous dire les détails, qui ont été menées, les résultats de ces études ont montré qu'il y avait vraiment des séquelles très graves sur les animaux et les humains sur lesquels ils ont fait des expériences, notamment des grosses séquelles irréversibles neurologiques et physiques, que la croissance s'arrêtait, que le système immunitaire était super perturbé, que même des zones du cerveau étaient affectées, et que même des individus issus de ces expériences sont morts de ne pas avoir été touchés. Et c'est pas anodin, enfin, c'est vraiment, ça veut dire que c'est vital. Et en fait, c'est le premier sens à apparaître quand l'embryon se forme, parce que le système nerveux, il se crée en même temps, hein, j'ai dit des conneries, que le système digestif tout à l'heure, que le système nerveux, il se crée en même temps que la peau. Enfin, de ce qui adviendra la peau. Et en fait, ils sont très liés, parce que le corps, tout le corps entier réagit au toucher. que ce soit ouais, au toucher, aux caresses et tout ça, vraiment, ça modifie plein de trucs dans le corps. Et en fait, on a des millions et des millions de récepteurs sur la peau qui, en gros, convertissent les stimulations sur la peau en signaux électriques qui vont vers le cerveau. Et le cerveau, il va sécréter alors de l'endorphine et de l'ocytocine. L'endorphine, c'est l'hormone de la joie, de l'euphorie. Et l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. C'est ce qui est sécrété, par exemple, quand on allaite ou quand on accouche. Et ça provoque, en fait, plein de trucs dans le corps. Et notamment, ben, ça va mettre le système parasympathique en route. On va se sentir apaisé. Le taux de cortisol, il va baisser. Notre cœur, il va ralentir. La pression artérielle, elle va baisser. Nos muscles, ils se détendent. La respiration, là aussi. Et le système immunitaire, il va être stimulé. Du coup, c'est vital, donc n'hésitez pas à vous faire toucher, parce que la sensation est différente quand on se touche nous-mêmes. Le corps, il sait quand c'est nous et quand c'est quelqu'un d'autre. Il y a deux reportages super, dont un sur Arte et l'autre je sais plus sur quoi. Il y en a un, il s'appelle Le pouvoir des caresses, et l'autre c'est, je crois, Histoire des caresses, ou un truc comme ça, Histoire du toucher et des caresses. Et c'est de ça que je sors ces informations. C'est sorti il y a peut-être 2-3 ans, mais je pense qu'il y a moyen de les trouver. Et c'est hallucinant, en fait. Ils ont fait des recherches très récemment pour savoir comment ça fonctionnait et de s'apercevoir à quel point c'était super lié. Du coup, que par exemple, les personnes âgées qui se font plus jamais toucher, c'est hyper important pour elles d'être encore touchées, quoi. Et moins on est touché et moins on supporte d'être touché, parce que je pense que ça fait un truc trop fort. Et il y a aussi des personnes qui n'aiment pas du tout être touchées, qui ne le subissent pas. Et du coup, faut penser à ça et jamais oublier le consentement et tout ça. Je pense que je suis en train de dépasser l'horaire.
Comment ? Les 17h10.
Ah, et ben, je vais m'asseoir. Est-ce que ça vous va que je continue juste 5 petites minutes ? Parce que j'ai un peu répertorié à la fin plein de plantes médicinales différentes qui agissent sur le sommeil, le stress, la détente, les émotions et tout ça. Elle n'est pas exhaustive, cette liste, c'est vraiment, il y en a quand même pas mal, mais il y a aussi des plantes dont j'ai pas parlé, parce que ça commençait à faire aussi beaucoup de pages, ou alors j'ai pas parlé de certaines plantes qu'on trouve que en huile essentielle, qui sont très très chères, et que voilà, j'ai un peu fait des choix de plantes. Je ne vais pas les détailler, je vais juste en parler de quelques-unes. La première page, c'est un peu qui explique comment on fait une infusion, comment on prend les macérats glycérine et bourgeons, les alcoolatures et les huiles essentielles. Je le dis, faut jamais prendre aucune huile essentielle pure. Et que là, plutôt, moi, je conseille de ne pas les avaler. Parce qu'en fait, chaque plante est très particulière. Du coup, il y en a qui peuvent s'avaler, d'autres non. Il faut dire le nombre de gouttes, nanana. Ça me paraissait très complexe parce que c'est très long à expliquer et tout ça. Et qu'en fait, les huiles essentielles, elles passent aussi par la peau. Elles traversent la peau et elles rentrent dans la circulation sanguine. Et du coup, de les prendre par la peau en massage, ça va avoir les mêmes effets. Et de les appliquer à l'endroit où passe la moelle épinière, ou dans des zones où, où la peau est très fine et très vascularisée, où il y a plein de vaisseaux sanguins qui passent, ça fait que l'action elle est plus rapide. Et notamment, ça veut dire les appliquer au niveau du sternum, là, colonne vertébrale, même si vous n'arrivez pas à atteindre tout, vous pouvez faire colonne vertébrale, nuque, vous avez quasiment toute la colonne vertébrale. Mais ça peut être aussi les poignets, la plante des pieds, je pense la zone du coude aussi. En tout cas, ça va agir pareil que les prendre. Voilà. Et pour toutes les plantes, n'importe quelle plante, sous n'importe quelle forme. Il ne faut jamais dépasser 3 semaines d'affilée. Il faut toujours faire une pause d'une semaine et reprendre 3 semaines. Et pendant cette semaine de pause, c'est possible de prendre une autre plante qui va avoir le même effet. Mais ça fait que sinon, mais comme tout, le corps, il va finir par soit s'habituer à cette plante et du coup elle va avoir moins d'effet, ça va être compliqué pour le corps de se démerder ensuite tout seul, mais aussi ça peut provoquer des allergies. C'est que n'importe quelle substance qui s'accumule dans le corps et qu'on lui donne tous les jours, ça peut mettre en branle le système immunitaire et faire en sorte que ça devienne allergique. C'est pour ça que par exemple il y a plein de gens qui sont allergiques au céleri, parce que dans plein de produits transformés il y a un tout petit peu de céleri, et que à manger ça tous les jours, ça fait qu'au bout d'un moment, les gens développent des allergies liées au céleri.
Au céleri.
J'ai donné un exemple du céleri, mais il y en a plein d'autres, quoi. Du coup, plusieurs plantes que j'ai indiquées ici. J'en ai ramené quelques-unes. Bon, il y a des trucs qu'on n'a rien à voir, mais il y a par exemple l'huile détente, qui est à base de verveine citronnée, que j'ai pas mise dedans. Je crois que j'ai ramené l'huile essentielle de marjolaine à coquille et d'ylang-ylang. Je ne sais pas si j'ai mis ylang-ylang. Mais je n'ai pas ramené, mais je vais en re-ramener la semaine prochaine. En tout cas, c'est possible de trouver du macérat glycériné de bourgeon de tilleul, de bourgeon de figuier. Ensuite, les tisanes pour le sommeil, il n'y en a plus, mais il y en aura de nouveau là en septembre, je pense. Il y aura de nouveau des mélanges de plantes pour le sommeil et aussi pour le stress, la déprime et tout ça. Je vais ramener aussi de l'alcoolature de mélisse, qui est vraiment une super super plante, qui est une plante tranquillisante, sédative et aussi contre l'anxiété, le stress et les troubles de l'humeur. Tac, qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, et je vais ramener aussi de l'alcoolature de millepertuis, qui est très connue souvent parce que c'est un des meilleurs antidépresseurs végétaux, on dit. Et je ne sais pas si c'est vraiment le meilleur, parce que je pense qu'il en existe d'autres. Mais par contre, c'est une plante pas du tout anodine. En gros, le millepertuis agit comme un antidépresseur par rapport à la sérotonine qu'on a vu tout à l'heure là. C'est aussi un régulateur de l'horloge biologique interne, et notamment pour toutes les personnes qui travaillent de nuit ou qui sont en décalage horaire, ça permet de resynchroniser l'horloge biologique. Mais par contre, c'est très long à agir. Ça peut mettre jusqu'à un mois de prise de millepertuis avant que ça se mette à agir. Il y a un potentiel syndrome de sevrage. Si on s'arrête, du coup, il ne faut pas l'arrêter d'un coup. J'ai indiqué les quantités pour les alcoolatures. Le millepertuis, il n'y a pas besoin d'en prendre autant. Souvent, on dit qu'elle est photosensibilisante. Ça veut dire que si on prend du millepertuis, il faut éviter d'aller au soleil parce qu'on peut prendre des gros coups de soleil. Mais en vérité, c'est qu'on s'est aperçu que beaucoup d'animaux devenaient photosensibilisants, notamment les brebis, en mangeant de millepertuis, et que ça devenait très grave. Mais aux doses où on prend le millepertuis en tisane, en huile ou en alcoolature, en théorie, ça, c'est pas photosensibilisant, c'est pas des quantités suffisamment importantes par rapport à une brebis qui va manger un champ de millepertuis, quoi. Et par contre, surtout, ce qui est le plus important dans le millepertuis, c'est qu'il agit sur le foie, et qui va du coup faire que le foie, il va inhiber, ou en tout cas trop filtrer, beaucoup beaucoup de médicaments qu'on va prendre, et qui vont faire que les médicaments ne vont pas marcher, et notamment des médicaments soit très très importants, soit un peu banal du quotidien, mais qui du coup ne vont pas marcher, notamment les anti-inflammatoires comme l'ibuprofène, le tramadol. Faut surtout pas en prendre avec les antidépresseurs là, plutôt pour le coup, parce que ça va faire soit un combat de l'action, soit trop d'action, quoi. Vous voyez, ils vont faire la même chose et ça va pas aller. Les médicaments pour les migraines, les maladies cardiaques, le VIH, les chimios, les anticoagulants, enfin il y a tout un tas de trucs. Les antipsychotiques aussi, ça marche pas. les somnifères et aussi les contraceptifs oraux, les pilules mini-dosées. Ça va faire que ça marche plus. Et pas en cas de bipolarité, parce que ça peut déclencher des phases maniaques, et pas en cas de grossesse. Il y a plusieurs... en fait, toutes les plantes, j'ai indiqué quand il fallait pas les prendre avec un antidépresseur, dans certaines maladies en cas de bipolarité ou de schizophrénie, de cancer, de grossesse, d'allaitement. Faut vraiment prendre en compte ça, c'est vraiment important. Et... pour finir, je voulais aussi parler de la valériane, parce que c'est une plante qui est souvent utilisée pour les problèmes, les troubles du sommeil. Mais la valériane, c'est vraiment pas du tout une plante anodine. C'est pour moi la dernière plante à utiliser si toutes les autres ne marchent pas. Parce que, et vraiment j'insiste là-dessus, parce que c'est sûr, c'est le plus fort sédatif qui existe dans le milieu végétal. Mais par contre, il y a un fort risque de dépendance. Et du coup, ça veut dire qu'il faut, avant de l'arrêter, il faut vraiment, sur du moyen terme, baisser petit à petit les doses avant de l'utiliser. Et que d'ailleurs, je rajoutais le, parce que j'ai oublié de le rajouter, dans la première page sur les plantes, en alcoolature, j'ai les quantités que j'ai indiquées, c'est beaucoup trop aussi pour la valériane. À des fois, 10 gouttes, ça suffit. Et quelqu'un disait tout à l'heure, ah, j'ai vu que la valériane, ça met très longtemps à agir. Et moi, plutôt, les gens que je connais qui ont pris ça, la première nuit, ça pouvait fonctionner, ou au bout de quelques nuits, ça pouvait fonctionner. C'est quand même assez fort, la valériane. Et voilà, j'ai aussi mis une bibliographie à la fin des bouquins que j'utilise beaucoup dans la vie, que ce soit des bouquins d'anatomie et de physiologie, soit des bouquins autour des plantes. C'est des indications, il en existe plein d'autres, mais voilà. Est-ce que vous avez
Merci.